Ben voilà Dieu, votre présence, et pour la liberté qu'on a de se rassembler ensemble. On apprécie ces bons moments, c'est une belle bénédiction qui nous est faite, que Dieu nous accorde. Continuons à prier pour les uns pour les autres, pour tout travail qui est fait pour la mention de l'homme. Le titre de l'étude, les stations du peuple hébreu dans le désert, 24e partie. Le but de cette étude, ben, c'est de nous démontrer que lorsque l'on donne notre vie à Dieu, que l'on met notre confiance en lui seul, en laissant sa parole nous transformer et son esprit nous enseigner et nous guider, mais on peut demeurer près de Dieu et se réjouir dans sa paix. À ma dernière étude, j'avais fait la lecture des 10 commandements et j'avais donné les principaux thèmes des chapitres 21, 22 et 23 qui concernent les lois de l'Éternel. On a vu aussi le chapitre 24 qui nous parle de ceux qui ont monté une partie du mont Sinaï, soit Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Je vais relire les versets dans Exode 19, 1. Pour nous donner une idée du temps qui s'est passé à partir de leur sortie d'Égypte jusqu'au désert du Sinaï. C'est écrit au troisième mois, lorsque les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Ils étaient partis de Réphidim et arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Et Israël campa là devant le mont. Et Moïse monta vers Dieu. Donc, ça fait déjà 3 mois au peuple, depuis leur sortie d'Égypte, pour se rendre au mont Sinaï. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on regarde ensemble. Faites chaud ici, pour moi qu'il y a chaud. J'aimerais qu'on regarde ensemble de plus près le mont Sinaï, ou le mont Horeb, si vous voulez. En passant, Sinaï veut dire épineux. Et Horeb veut dire la montagne de l'Éternel. Mais il y a d'autres significations, mais je vais revenir avec ça à la prochaine étude. Notre première photo. C'est beau, c'est clair. Pour avoir une idée où est situé le mont Sinaï, on a son emplacement ici qui est situé,
ben, on le voit très bien,
ici, entre le golfe de Suez et le golfe Aqaba. Ces deux cours d'eau sont alimentés par la mer Rouge, comme on voit en bas. C'est quoi un golfe? C'est pas un terrain en passant. Hein? C'est un bassin formé par la mer dans son avancée à l'intérieur des terres. Cette partie, c'est ces deux branches-là, cette partie entre les deux golfs s'appelle une presqu'île. Toute la partie ici, aller jusque-là, on appelle ça une presqu'île. À cause de sa portion qui est rattachée au continent par un isthme. On appelle ça un isthme, tout ça. En même temps, on appelle ça aussi une bande de terre. Aujourd'hui, le golfe de Suez à gauche, oui, pour vous autres à gauche, n'est plus ce qu'il était, puisque les hommes ont creusé un canal par deux fois. Ils se sont repris en deux fois. Donc, au bout du golfe, cette partie ici, là, ils l'ont rallongée. Ils se sont rendus jusqu'à la mer Méditerranée qui est en haut ici. C'est clair, là. Puis, l'autre partie est appelée toujours le golfe de Suez. Et l'autre, le canal de Suez. Rappelons-nous au début qu'Israël a traversé la mer Rouge après leur sortie d'Égypte. Et le mot Égypte veut dire terre de dépression. Pourquoi? Dans Exode 2, 23, on nous dit Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement, et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Rappelons-nous que l'Éternel a fait alliance avec Abraham, le père de la foi, et eux, ils sont là de la... Et ceux qui sont là, ils sont de la postérité d'Abraham. Donc, tous ces gens-là sont issus des 70 personnes qui sont montées en Égypte avec Jacob pour rejoindre Joseph, son fils. Ça, c'était pendant la grande famine. Je reviens à la carte. On voit ici l'endroit approximatif, en haut à gauche complètement, où le peuple a traversé. Ça s'adonnait qu'il arrivait dans le désert d'Étham. Oh, je perds la place. Ça, c'est la place où c'est que Dieu avait choisi pour que son peuple traverse. On sait que l'Éternel a ouvert les eaux de sa mer afin que son peuple puisse passer à cette. Il aurait pu tout simplement retirer une partie de l'eau, puis ça serait mouillé les pieds, mais sa grande puissance nous démontre encore une fois jusqu'où Dieu peut aller. Ils ont pensé à sec. On sait qu'il y a beaucoup d'incrédules vis-à-vis de la parole de Dieu, et pourtant, c'est la seule vérité sur cette terre. Mais l'homme naturel aime agir selon ses pensées, parce que l'homme aime être glorifié. Pourtant, qui a tout créé? Et tout mis en place pour le temps des hommes sur la terre. Qui est semblable à notre Dieu? Ésaïe 40, verset 12, nous dit, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux dans la paume de sa main, pas la pomme, et a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé par ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et voici, les nations sont comme une goutte d'eau d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Et que peut-on ajouter au sujet de l'homme? Mais Jacques 4, verset 14 nous dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » On parle de l'homme naturel ici, bien entendu, mais l'éternel Dieu, au contraire, n'a ni commencement ni fin. Son nom le dit, l'éternel Dieu. Mais ça prend de la foi pour croire à tout ça. Savez-vous comment j'aime voir cette photo? Je pensais qu'il est venu la première fois que j'ai vu cette photo-là. Après avoir lu les versets dans Ésaïe 40, je peux m'imaginer les deux gars comme les bras de l'Éternel qui va entourer son peuple parce que c'est l'Éternel qui les envoie là. Afin qu'ils demeurent dans les limites que l'Éternel, leur Dieu, veut leur donner en héritage. J'aime ça voir ça de cette façon-là, parce qu'il y a tellement de place dans la parole de Dieu où l'homme est chassé à cause de ses péchés, et même que le Fils de Dieu a été crucifié à cause des péchés des hommes, mais que ça fait du bien de voir l'amour de Dieu qui ressort pour l'homme, donc pour son peuple ici, et pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu. Au travers des bénédictions et des grâces que Dieu nous fait. Ces deux bras-là me font aussi penser, lorsqu'on vient à l'Église, qu'on se rassemble dans ce même lieu, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. J'aime ça, cet exemple-là. Et c'est pour Dieu qu'on vient ici. Ce lieu où l'on est appelé la maison de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu ouvre sa Bible pour nous annoncer la parole de Dieu, C'est pour nous aider à suivre le sentier qui mène à la vie. Si l'on garde sa parole, bien évidemment. C'est ce que l'Éternel Dieu veut faire avec son peuple ici, en les conduisant vers la montagne de Dieu à Horeb, afin qu'ils aient ses commandements, ses lois, ses ordonnances au pied de sa montagne et un pays pour eux seuls. On passe à la deuxième photo. S'il vous plaît. Sur cette photo, on nous explique ce qui a eu lieu à différents endroits sur le mont Sinaï. Les différentes choses qui ont été faites, ainsi que différentes situations qui y sont arrivées. Si on regarde au sommet, il est noir. On l'appelle le sommet noirci. Bon, j'ai pas besoin de montrer la photo, tout le monde le voit. Pourquoi qu'il l'appelle comme ça? Exode 19, 18 nous dit « Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et le mont tremblait avec violence. » Et Exode 24, verset 17 nous dit « Et la vue de la gloire du Seigneur était comme un feu dévorant sur le sommet du mont aux yeux des enfants d'Israël. » Il y en a sûrement parmi nous qui ont déjà chauffé un foie là-bas, au point de l'entendre vromber. Elle est rendue là, c'est pas drôle. J'ai déjà vu ça, moi aussi, de proche, puis ça fait peur. Vromber, bien, c'est quelque chose qui va émettre un grondement sourd et régulier. Je ne le ferai pas, je ne suis pas capable de le faire. Ça m'arrive longtemps. Jadis, je suis parti avec deux amis. J'avais trois dans les 22, 23 ans maximum. On est allé à la pêche sur la glace. On a fini de travailler le vendredi matin à 8h, puis on a monté à Venise en Québec. Puis lorsqu'on s'est arrêté pour payer le droit de passage, bien, on a décidé de louer une cabane. Parce que c'était vraiment pas chaud, le vent était grand. Puis, dans ces cabanes, il y a un petit poêle. Très petit. Il n'est pas gros, mais assez pour bien chauffer la petite cabane. Puis ceux qui ont déjà été à la pêche sur la glace, mais ils savent qu'il y a des cabanes qui ont trois trous qu'on peut percer dans la cabane pour pêcher dans la cabane pour être à la chaleur, pour les plus frileux. Ou pour se réchauffer. Ben, j'ai commencé à percer mes trous à l'extérieur. Ben, j'ai commencé par ceux de l'intérieur. J'ai écrit mon histoire parce que j'ai pas de mémoire. Fait que j'ai des repères, puis là, ça me revient. Disons que dans ces temps-là, on s'amusait fort. OK, on était rendu. Fait que j'ai passé les trous à l'extérieur après ça. Puis mon deuxième ami qui était avec moi à l'extérieur, lui, il a commencé à installer les lignes. Puis on s'est dit, bien écoute, on va aller chauffer. Alors, bien là, j'ai sauté un petit bout, c'est important pour voir ça. Pendant qu'on installait les lignes, bien, mon troisième ami, lui, a décidé d'allumer le petit feu. C'est ça, on s'est dit, on va aller chauffer. Puis, bien, notre chum, il a décidé qu'il n'ouvrira pas dans la cabane. De la même faire profond de la glace. Donc, il a mis du bois dans le petit poêle. Puis, il y a encore du bois dans le petit poêle. Il n'est pas gros, le poêle. Puis, il y a encore du bois. Puis, lorsque mon chum et moi, on a voulu entrer dans la cabane, aller chauffer à notre tour, mais on entendait déjà le petit poêle ronver à l'intérieur. Puis, lorsque j'ai ouvert la porte de la cabane, le petit poêle est rouge, puis le tuyau est rouge. Puis lui, mon chum, il est en dedans, puis il pêche. Mais... Et bien, là, je me suis dépêché de faire mes clés, fermer ça pour ne pas donner d'air, de laisser refroidir pour petit. Puis on a sorti dehors, hein. Puis c'est ça, notre chum, lui-ci, il a sorti, il était le premier à sortir, quand il a su que ça pouvait sauter cette affaire-là. Mais là, on a su par après que c'était la première fois que Chopin parlait. Il n'y en a plus vraiment parti d'autre avec moi. Tout ça pour nous dire que je reviens au feu des Warrens qui faisait trembler la montagne. Mais le mont Sinaï, c'est-à-dire, c'est ça que je devrais dire. Moi, je crois que la gloire de l'Éternel était comme un feu des Warrens. Je crois ça. Puis j'ai comparé ce feu à la fournaise qui était chauffée 7 fois plus pour y jeter les 3 compagnons de Daniel. On les connaît bien, Shadrach, Meshach et Abednego. Et j'imagine que le feu de cette fournaise chauffée à bloc n'avait rien à comparer au feu dévorant qu'il y avait sur le sommet du mont Sinaï. Ça ne peut même pas se comparer. Ça, c'est ma pensée. On va passer à la troisième photo, puis on va revenir après cette affaire, plus tard à celle-là. Ah, oh, il y a le temps qu'il faut, prendre de l'eau. Ah, et voilà. Toujours le mont Sinaï, le mont Horeb. Comme on peut voir cette photo, mais la photo est en couleur. Puis après vérification, bien, les photos en couleur ont fait leur apparition dans la fin des années 1800. Et c'est à cause de ce qu'elle était là, remarquez bien. Là. Si je regarde cette photo avec ses belles couleurs, mais j'imagine qu'elle a été prise dans les années 1900 avancées. Mais remarquez, le sommet est encore noir, et pourtant l'arrivée du peuple au mont Sinaï remonte à environ 450 ans avant Jésus-Christ. Si je fais le calcul en me basant sur l'année 450 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, donc j'ajoute 2016, ça fait environ 3466 ans de ça que le sommet du mont Sinaï a été brûlé. Il l'est encore aujourd'hui. Il est encore noir. Lorsqu'une forêt brûle, on dit qu'elle renaît de ses cendres. Il y a des petites forêts en montagne qui brûlent le sommet des montagnes et leur sommet ne reste pas noir ou noirci. Au contraire, la végétation reprend vie. Mais ici, après environ 3466 ans, elle est toujours noircie et rien n'y pousse. Moi, ma pensée, c'est que je crois que ce sommet était fait de roc. Un grand rocher, et qu'il a été tellement chauffé par le feu que le roc a changé de couleur. Et qu'il est demeuré noirci. C'est ma pensée. Je crois que l'Éternel Dieu, je crois beaucoup de choses à ce soir. Je crois que l'Éternel Dieu a laissé la marque de son passage de différentes façons sur la terre. Sa parole, premièrement, pour nous, ses enfants qui croyons en sa parole, afin de raviver notre foi. C'est une bonne raison. Il y a seulement l'Éternel Dieu qui peut faire se produire des choses comme ça. Quand je vois des choses comme ça, mais c'est la puissance de Dieu que je vois. Notre Père, que je vois, aucun autre Dieu ou homme peut faire des choses semblables. Rappelez-vous les versets que j'ai lus tantôt dans Ésaïe 40, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel, qui l'a éclairé de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction, etc. Rien n'est impossible à Dieu. Il y en a un autre aussi qui a été de passage sur la terre et qui a laissé ses traces, et c'est le Seigneur Jésus. On a son lieu de naissance, on a la ville où il a grandi, puis on a différents lieux où il s'est rendu, différents miracles qu'il a fait. Il y a des témoins de toutes ces choses-là. Il a aussi marché sur les eaux. Puis il s'est rendu dans le jardin pour prier son père. Et où il a été angoissé à cause de l'agonie qu'il vivait. Puis il pria si intensément, il pria instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Puis on a le lieu de sa mort qui est sur le mont Golgotha. Puis etc. Il y en a. On revient à la deuxième photo, s'il vous plaît. Ensuite, on nous montre où se trouvaient ceux qui ont été invités à monter avec Moïse. Ils sont eux autres sur la partie verte ici. Ils ne pouvaient pas aller plus haut que ça. Ça, c'est Moïse et l'Éternel qui se rendaient là. On voit la démarcation où il devait s'arrêter et le sommet où Moïse rencontrait l'Éternel. Ces hommes se trouvent être dans la couleur verte qu'on voit. Mais Moïse, lui, sur le sommet noirci avec Dieu. Avez-vous remarqué que le feu ne s'est pas propagé ailleurs que sur le sommet? Juste le sommet qui brûle. Un feu, normalement, il s'éteint. Hein? Là, c'est tout resté là. Tu vois une bonne raison? Puis, à droite,
oui.
On nous montre une fente ici dans le rocher. Ça, c'est la fente dans le rocher où Moïse s'est caché. Exode 33, 22-23 nous dit, « Et il arrivera que pendant ma gloire passera, je te mettrai dans la fissure du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, et je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra pas. » On se rappelle que l'Éternel avait dit à Moïse, « L'homme ne peut me voir et vivre. » Donc, ce rocher a évité la mort à Moïse, parce qu'il était caché dans le rocher. Tout comme le Seigneur Jésus, qui est le rocher vivant, et en qui notre vie est cachée. Colossiens 3:3. On nous montre aussi la grotte ou la caverne, si vous avez mieux, où Élie est demeuré. Ici. Oh, Élie. Ouais, là. Ok, ici. Ça, c'est dans 1 Roi 19, 8 et 9 qui nous dit « Et il se leva et mangea et but, et avec la vigueur de cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Il arriva dans une caverne et logea là. Et voici la parole du Seigneur vint à lui et lui dit « Que fais-tu ici, Élie? » L'Éternel est encore sur cette montagne. On peut pas du moins sa parole. J'aime ça, ces informations-là, avec la photo, parce que lorsque je vais relire les versets qui se rapportent à ces lieux-là, ou à ces événements-là, mais je vais être capable de les situer avec la situation qui y est arrivée, sur le mont Sinaï. J'aime voir la façon que Dieu fait les choses pour son peuple et nous, ses enfants. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler deux versets que l'Éternel a dit au peuple après leur passage de la mer Rouge. C'est dans Exode 19, 4 et 5 qui nous dit « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai emmené à moi. Maintenant, donc, si vous obéissez à bon escient, à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous me serez un trésor à part. » On a entendu parler d'un trésor dimanche. Puis je pense qu'il l'a trouvé, il n'est pas dans la cour. Maintenant donc, bon, ok, à bon escient, vous serez un trésor à part au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. Savez-vous pourquoi j'ai relu ces versets-là? Pour que l'on se rappelle le verset dans 1 Pierre 2:4 qui nous dit Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais trop souvent, on oublie à quel point on est précieux aux yeux de Dieu. L'Éternel voyait son peuple comme un trésor, et nous, ses enfants, il nous voit comme des pierres vivantes et précieuses. Le Proverbe 12, 27 nous dit « Le paresseux ne routit pas ce qu'il a chassé, mais la substance de l'homme diligent est précieuse. » Moi, c'est la substance de l'homme diligent. C'est là-dessus que je veux élaborer un petit peu. De quelle substance parle-t-on ici? On parle de la parole de Dieu. Donc, la nourriture que l'Esprit nous nourrit afin d'être transformé et devenir des hommes et des femmes faits dans le Seigneur. Mais à quel moment sommes-nous diligents comme enfants de Dieu? C'est lorsque nous sommes vigilants, dévoués et zélés pour appliquer la parole de Dieu dans notre vie, se détourner du mal et être prompt dans notre service pour le Seigneur. Bon, il y a d'autres raisons que j'ai pris ces trois-là en particulier. Si on est prompt dans notre service pour le Seigneur, ben, ça veut dire qu'on fait les œuvres que Dieu a placées devant chacun de nous. Sinon, ben, il va les faire par eux. Je reviens à la photo. Au centre de la photo, on a le ruisseau qui descend vers la gauche. Yeah. Ouais, donc, c'est le ruisseau qui descend du mont Sinaï. Un ruisseau, c'est un cours d'eau. On n'apprend rien là. Mais naturel, attention. Et j'imagine ici que cette eau était potable. Donc, le peuple pouvait s'en servir pour boire, faire boire les animaux, pour faire à manger, pour se laver, se servir de cette eau aussi pour les sacrifices. En passant, c'est sûr que cette eau-là était potable parce qu'on n'a pas rendu le peuple se plaindre. Donc, l'eau était potable. Puis, on descend un peu plus bas, à gauche, on voit l'emplacement où Moïse a érigé un autel. Donc, quand je parlais du ruisseau, je vais parler en partant d'ici. L'autel est là. Mais ça veut dire que c'est le même ruisseau qui descend. C'est ça, là, à cette place-là, c'est un autel que Moïse avait érigé. Dans Exode 20, 24, il nous dit, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Si on va en bas à droite, on a un autre hôtel. Cet hôtel-là est appelé l'hôtel des 12 piliers, dont un pour chaque tribu d'Israël. Exode 24, 4 à 6 nous dit, « Et Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, et il se leva de bonne heure le matin, le lendemain, c'est-à-dire, et bâtit un hôtel au pied de la colline, et dressa 12 piliers selon les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes gens des enfants d'Israël qui offrirent des offrandes brûlées et sacrifièrent au Seigneur des taureaux en offrande de paix. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins et il aspergea l'autre moitié sur l'autel. Ensuite, on sait que Moïse a pris le livre de l'Alliance et qu'il l'a lu au peuple. Et le peuple lui a dit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Et nous obéirons à Moïse. Et nous obéirons. » Et Moïse a aspergé le sang sur le peuple en leur disant, « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a fait avec vous selon toutes ses paroles. » On va arrêter ça là pour la soirée. Je vais juste terminer avec un verset que je crois que chacun d'entre nous, on devrait garder dans notre cœur. Je crois que c'est un verset qui pourrait nous aider à combattre le bon combat, celui de la foi jusqu'au bout, afin d'acquérir la couronne de justice. Ce verset, il est, on le connaît bien, est dans Josué 24, verset 15. Et Josué dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » On peut prendre ce verset-là comme exemple, parce que c'est un verset qui peut nous guider, qui peut nous garder en vie spirituellement jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, aimons-nous les uns les autres et prions les uns les autres. On a parlé de Moïse. On va lire quelques versets dans Malachie 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, qui est écrit. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, vous enverrez Élie, le prophète, avant de vous
que l'Éternel a dit. C'est vos grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Avec Dieu, Dieu annonce toujours en avance. Puis la raison pour laquelle il annonce, c'est pour montrer que justement, il est Dieu. Parce qu'il y a juste Dieu qui peut annoncer des choses, puis ça va s'accomplir. Qu'est-ce que c'est qui est faux, qui est annoncé, par exemple, un faux prophète, pour le distinguer d'un vrai, bien, c'est qu'est-ce qu'il annonce, ça ne se produira pas, donc c'est pas un faux prophète. Il y a juste Dieu qui peut annoncer quelque chose, ça va se produire. On a ici Malachie, on annonce Élie. Il va se passer une période entre Malachie et la venue de Jean le Baptiste, l'Élie devait venir. L'Élie devait venir aussi, nous, par la parole de Dieu. Jésus lui-même nous l'atteste que Jean le Baptiste était l'Élie qui devait venir. C'est, il était annoncé d'avance. Et là, Marc-Pierre, qu'est-ce qu'il voulait? Jean est venu au monde pareil. Jean, il était envoyé, il est allé prêcher la repentance, il est allé baptiser d'eau, il est allé faire ce que c'est que Dieu lui a demandé de faire. Jean est un outil que Dieu a choisi. Dans Jean 1, verset 32, Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui en parlant au baptême de Jean. Je ne connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. Fait que Dieu a envoyé Jean baptiser, prêcher la repentance, puis dire, c'est celui sur lequel que l'Esprit descendra sur une forme d'une colombe, c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. Jean a vu son vent baptiser Jésus, a vu descendre l'Esprit. Et au verset 34, il dit, « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean a la certitude que c'est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui l'a envoyé baptiser, il a donné une description, il a dit qu'est-ce qui était pour arriver, que l'Esprit était pour descendre sur lui, que celui sur lequel l'Esprit descendrait, c'est lui qui baptise le Saint-Esprit, c'est lui, comme que la voix serait entendre, voici mon Fils bien-aimé. Jean atteste qu'il est le Fils de Dieu, à cause de ce qu'il a vu. Les disciples, les apôtres, après la résurrection, après que l'ascension même de Jésus, quand ils ont commencé à prêcher à Jérusalem, ces gens-là attestaient que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont entendu. Il est mort, enseveli, ressuscité. Ils peuvent annoncer que Jésus est le Fils de Dieu, ils en ont eu une preuve, une démonstration vivante. Jean a eu une démonstration vivante. Pierre et l'autre apôtre, Jean, ont eu une démonstration vivante que Jésus est le Fils de Dieu. Nous, c'est la même chose. On a une démonstration vivante que Jésus est le Fils de Dieu. Comment est-ce qu'on peut affirmer, comment est-ce que je peux affirmer que Jésus est le Fils de Dieu? Mais premièrement, c'est parce que je suis sauvé. Et pour être sauvé, il faut que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, tu nais de nouveau. Tu meurs à ton ancienne vie, tu es enterré, tu ressuscites à nouveauté de vie. Tu ressuscites. Si tu es ressuscité, tu peux attester la résurrection. Tu peux attester que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Je t'affirme ce soir que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu veux être sauvé, il faut que tu fasses la même chose. Crois que Jésus est le Fils de Dieu, confesse-le de la bouche, puis tu vas avoir l'assurance comme Jean, Jean le Baptiste, comme l'apôtre Jean, comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul, comme moi j'ai, que Jésus est le Fils de Dieu.